Je parle tout bas pour ne pas me réveiller.
Accroche-toi bien.
Ça suffit.
Dans tes rêves.
C'est impossible.
Vous êtes en retard pour le thé. Seulement si tu crois que c'est impossible. Dans tes rêves.
Dans tes rêves, tu es au bistrot avec Victor Hugo, Cyrano, Don Juan et Flaubert et sa picole sec à la table des ogres. Chacun a son rond de serviette à carreaux entre l'œuf maillot et la tête de veau. Au diable, le cholestérol et la religion de la modération. Comme chaque soir, ça se termine avec des chansons à boire et à croire au monde meilleur s'il existe. Dans tes rêves, Hugo finit par s'engueuler avec Cyrano, tandis que Madame Bovary fait une scène à Don Juan. Flaubert reprend du dessert. C'est toujours le même cirque dans le bistrot La Maison Bleue, peuplé de lumière et de fous. Mais qui est le fou de l'autre? Allez, un dernier verre pour la route, dans la seule maison qui est restée debout malgré les bulldozers de la mondialisation. Dans tes rêves, il y a le pays de ton enfance et celui de l'utopie. Il n'y a pas de morale à la fin. Tout est possible, tu deviens un super-héros de la vraie vie. Alors, si on écoutait un peu plus ce fameux rêveur qui sommeille en nous.
Dans tes rêves.
France Inter.
Laurence Garcia.
Et pour cette nouvelle rêve partie, une rencontre d'imaginaire dont je me suis inspirée, et j'avoue que je me sens un tout petit peu petite, je sais pas pourquoi, ce soir, entre deux, mon premier... Bon, déjà parce que je suis pas très grande. Mon premier est auteur, compositeur, interprète, on dit de lui qu'il est la bande-son de plusieurs générations, mais je crois savoir que les étiquettes, c'est pas trop son truc. Bonjour, bonsoir, Maxime Le Forestier.
Bonsoir.
Bande-son, ça vous va?
Oui, oui, tout à fait. Oui.
Ah
tout à fait.
Une bande-son incarnée.
Bah oui, mais on ne sait jamais combien de chansons on connaît par cœur.
Oui. Il vous plaît mon rêve avec ma maison bleue dans...
C'était joli, oui. Oui.
Elle reste debout
Elle est toujours debout, on l'a repeinte il y a quelques années en bleu. Elle était devenue verte.
Ah oui ?
Elle est habitée actuellement par deux femmes qui sont mariées ensemble, et qui ont 9 chiens et 3 enfants.
C'est génial.
Oui, et qui... sont un peu étonnés de voir des Français s'arrêter tous les jours devant cette maison pour les prendre en photo.
Ah, c'est drôle. Mon second est acteur, réalisateur, écrivain. Vivre en bourgeois et penser en demi-dieu, c'est chez Fayard. Et c'est à la fois un autoportrait, une enquête imaginaire dans la vie, les amours, les emmerdes de Flaubert, qu'il appelle Gustave. Bonjour, bonsoir, Jacques Weber.
Bonjour, bonsoir.
Alors, j'ai fait un petit clin d'œil aussi à Hugo au bistrot, cette pièce que vous allez jouer du 18 avril au 5 mai à la scène Télém. Entre Hugo, Flaubert, vous aimez bien les fantômes, vous, non ?
Oui, parce que j'aime pas du tout le vocable qui consiste à dire ils sont extrêmement contemporains, ça veut pas dire grand chose. J'aime tout simplement leur façon d'écrire et leur façon de traverser leur époque et d'en être des espèces d'entomologistes magnifiques. Et de ce fait, parce qu'ils sont très précis sur leur époque et très sincères avec elle, très cruellement vrais avec elle, ils nous parlent encore, mais c'est tout. La langue, pour moi, ne s'arrête pas là. Je connais mieux cette langue-là que la langue du 21e siècle, mais qui est tout aussi riche. Le premier qui dit ça, c'est Victor Hugo.
Ouais.
Qui dit, toute langue qui se fige est morte. Donc je fais très attention à ça, mais c'est vrai que j'ai une petite tendance toujours à préférer les racines aux bourgeons. Pour que l'arbre bourgeonne, il faut des racines. Je suis plutôt du côté des racines, c'est vrai. Mais c'est mon grand âge qui veut ça
bien
aussi.
Bien sûr. Voilà. Nous allons mêler vos mots, vos imaginaires et vos univers ce soir. Alors vous vous connaissez dans la vraie vie, ami à la vie, esprit copain d'abord. Ça remonte à un petit bout de temps
Nous ?
Ouais.
Ah bah oui, ça remonte.
Comme un vieux couple.
On avait quoi, 16 ans à peu près.
Ouais, 16 ans, oui.
Ah oui.
Ouais, 16 ans, cours Florent, les tout débuts de cours Florent, où il y avait encore quoi, une vingtaine d'élèves, pas plus. Et Florent avait quoi, 28 ans, 29 ans, et nous on avait 15, 16 ans, oui.
Alors, vous
et
qui...
il était déjà extrêmement énervant, puisqu'il nous piquait toutes nos nanas avec sa guitare,
ah,
parce
c'est
que
ça.
L'homme à la guitare a toujours
ça
piqué
marche.
Les nanas tout le monde, c'est bien connu.
Il ne répond pas d'ailleurs.
Non, mais moi chez Florent, j'étais venu en observateur en fait. Moi, je savais que je voulais chanter, que c'était ça ma vie, mais je voulais fréquenter plein de sortes différentes, plein de manières différentes de faire du spectacle. J'ai fait du théâtre chez Florent, j'ai fait du mime chez Wolfram Mehring et puis Étienne Decroux. J'ai fait de la danse, j'ai fait des tas de choses dont je ne me suis pas servi. Si, ce qui m'a le plus servi, c'est le mime. Mais j'étais comme un corps étranger chez Florent, j'ai l'impression.
Non, il réfléchit.
Quelques scènes où ça se passait pas.
Puis en même temps, le chanteur est aussi acteur, quand même, acteur de lui-même, mais avec ses propres voix.
Pas du tout, pas du tout. C'est ça qui manque aux comédiens. C'est après ça qui court. C'est le contact direct avec le public, le fait de le regarder dans les yeux et de lui parler directement. Il parle toujours à travers un filtre. Et j'adore. Moi, j'ai fait chanter Jacques plusieurs fois. J'adore ça parce qu'on sent qu'il désire ce contact direct avec les gens.
Alors vous qui vous connaissez plutôt bien, allez, soyez honnête, quel est le plus déraisonnable des deux ?
Ce n'est pas celui qu'on croit.
Je n'avais aucun idée préconçue.
Ça veut dire que c'est pas forcément moi. Non, non, mais parce qu'on pense que j'ai une espèce de grand fou et tout. Je suis pas sûr, je suis plus très rêveur, beaucoup plus que fou allié, quoi. C'est ça qui m'énerve d'ailleurs. C'est un de mes rêves, ça serait d'être beaucoup plus dingo que je ne le suis.
Le plus réac ronchon des deux.
Ronchon.
Ronchon, moi j'aime bien Ronchon.
Oui,
j'aime
bien Ronchon. Je crois qu'on
donc là vous êtes à égalité quoi.
Ronchon, c'est bon là-dedans.
Ouais.
Réac peut-être, on ne sait pas. Hein.
Oui, remarque, oui, peut-être.
C'est relatif.
C'est vrai. Je ne pense pas.
Le plus hypochondriaque des deux.
Ah, sans conteste Jacques.
Jacques Bébert, oui, ça c'est sûr.
Mais enfin, il s'est soigné, oui.
Oui, il s'est soigné.
Non, mais alors, un truc qui est bizarre que j'ai appris avec les toubibs, c'est que...
Vous en avez des toubibs dans la famille,
bah,
vous,
hein. J'en vois tout le temps. Mais quand il vous arrive un pépin un petit peu plus sérieux que d'habitude, d'un seul coup, vous êtes moins hypochondriaque après.
Oui, c'est semblable.
Non, mais c'est très étrange. Ouais. Comme si, c'était la chose qui pouvait vous faire très peur est un peu arrivée.
Ça s'est fait.
C'est très. Et ils disent que c'est très fréquent chez les vrais hypochondriaques. Ouais.
Le plus utopiste des deux, parce que nous, on parle beaucoup de rêve, d'utopie, de résistance de l'imaginaire dans cette émission. Utopie, est-ce que c'est un mot qui vous cause, qui swing, qu'on utilise, qui vous ressemble ?
Utopie, pour moi, c'est quelque chose qui est irréalisable, mais dont on a besoin, quoi. C'est de l'ordre de la foi. Je ne sais pas si je suis utopiste, je ne crois pas, non.
Non ?
J'ai dû l'être.
Ah !
Mais peut-être la vie rabote un peu les utopies.
Ah, on en parlera, ça.
Moi, je veux à tout prix continuer à l'être et faire en sorte que d'autres le soient, mais c'est vrai qu'on en a besoin de toute façon. Et c'est vrai que les grandes utopies ont soulevé et changé le monde, comme des trucs qui paraissaient totalement utopiques au départ, qui sont souvent des mini-réactions, des tout petits trucs qui bougent. On se dit, c'est pas possible, et puis ça se met en place. Donc voilà, j'y rêve encore, mais voilà, ça fait partie des rêves nécessaires à la raison, comme on dit. Voilà.
J'ai lu quelque part, Jacques Weber, que vous disiez, ça serait pas mal de remplacer le Conseil des ministres par un Conseil des penseurs utopistes.
Non, c'est un truc qui m'est venu en lisant des textes de Bofill, qui est d'ailleurs pas forcément un architecte de génie. On a vu que ses grandes utopies sociologiques étaient des erreurs, mais c'est vrai qu'il avait eu une idée assez marrante, il faisait un conseil d'administration avec que des dingos. Et il disait, voilà, on va faire, pas que des dingos, justement, des grands spécialistes du béton, de ceci, de cela. Et il disait, voilà, est-ce qu'on pourrait pas détourner les chutes du Niagara pour qu'elles passent sur les Champs-Élysées, au travail?
Oui.
Et les mecs se mettaient à plancher là-dessus. Et ça, je trouve que c'est très, très salvateur, ça. Ça entretient l'imaginaire, la pensée. Ça m'avait beaucoup frappé. Alors, il faudrait pas remplacer entièrement le Conseil des ministres, mais s'il y avait un conseil parallèle utopique, je trouve que ça serait extrêmement intéressant.
Ça pourrait être un titre de chanson, ça, non, Maxime Le Forestier ?
Tout peut être un titre de chanson, ma chère.
Ouais, très bien. Comme vivre en bourgeois et penser en demi-dieu, on en
parlera tout à l'heure. C'est une citation de Faubert, ça.
Ah oui, ça, c'est une chienne.
J'aime bien.
D'idées pour reprendre une autre chanson. On parlait des étiquettes qui, parfois, vous agacent un petit peu, Maxime Le Forestier. Comme vous dites, moi, le côté chanson contestataire, non. C'est trop réducteur, ça me saoule.
Il y a déjà longtemps.
Oui. Que ça vous saoule.
Non, mais j'aime pas les obligations. J'aime pas qu'on me donne des ordres.
Alors, libertaire, alors, si on n'aime pas les ordres.
Oui, sans doute, oui, bien sûr. Mais... quand je me suis aperçu que j'étais obligé de chanter des chansons pamphlétaires pour que le public applaudisse, j'ai arrêté de les chanter et j'ai fait des chansons d'amour.
C'est ça.
Oui, j'aime pas être obligé à quelque chose.
Et les obligations du quotidien à lesquelles on ne peut pas dire non, vous faites comment ?
Ben, je fais avec. Mais faut pas dans l'exercice de mon activité, quoi. J'aime bien chanter dans de bonnes conditions, dans des conditions qui me font plaisir, où je prends du plaisir. J'aime pas les galères, les trucs improvisés, ces choses-là.
Ces choses-là.
Moi, en tout cas, par contre, contrairement à Maxime, j'aime bien arriver dans un foutoir et me débrouiller avec. Il n'y a qu'un lieu que je redoute et que je n'aime pas parce qu'il est institutionnalisé, c'est Avignon, c'est la cour du Palais des Papes. Je trouve qu'elle a grandi trop vite et que c'est difficile de faire bien son boulot d'acteur dedans, même s'il y en a qui l'ont fait sans doute très bien, mais moi ça ne me correspond pas. Par contre, me retrouver dans un lieu qui n'a rien à voir avec le théâtre, où tout est à faire en existant, qu'on est en présence, ça j'adore ça.
Mais ton rapport à certains metteurs en scène... Ouais. Là, tu viens demander les ordres d'Albert Stein ou des gens comme ça. Là,
plus je vieillis, plus je me dis que le être bien dirigé est une promesse de progrès, donc de bonheur. Et le bonheur, on en a de plus en plus besoin, vu l'autre éternité qui nous attend. Et comme disait le père Hugo. Et non, j'aime beaucoup être très 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 dirigé, moi. Voilà. Alors, par contre, tous les grands bonhommes du théâtre vous disent. Joue d'abord et parle après. C'est-à-dire propose. Alors ça, là-dessus, j'ai pas trop de soucis. Et après, eux, ils vous aident à ranger. Et ça, j'adore ça.
J'étais d'accord avec l'adage de Michel Robin qui dit il y a trois sortes de metteurs en scène. Les bons, ceux qui gênent pas. Et les autres.
Mais ça, j'adore. Michel Robin, immense acteur. Voilà, j'adore cet homme.
Et dans les autres, on en met alors.
Ah, ils sont tous là, pratiquement.
Oui, c'est ça. Maxime Le Forestier, Jacques Weber, nous voici gâtés jusqu'à minuit. Vous aussi, vous postez vos songes, vos utopies sur notre page Facebook. La rêve partie anti-blues du dimanche soir, mitonnée par le gang des rêveuses. Marie-Hélène Fauquet, la réalisation. Nadia Chougui, la préparation. Muriel Pérez pour la programmation. Et ce soir, à la technique, c'est Élise Christophe. Belle soirée. Today is the day that I chuck everything I thought out the door. Today is the day I ask myself, what the hell was I living for? That's right. Today is the day it starts right here. Don't gotta think a word about now. Today is the day it starts right here. I thought about it, and it's kind of strange. Sur France Inter et Maxime Le Forestier adore, ou presque.
Quand j'étais gosse, j'aimais l'odeur du pain grillé le matin. de plastique à recouvrir les livres à la rentrée. Et puis les petites pots de colle blanche à l'école.
Dans tes rêves. Laurence Garcia.
Dans leur rêve, Maxime Le Forestier et Jacques Weber, et comme à chaque fois, messieurs, nous revisitons l'imaginaire de l'enfance qui explique aussi qui l'on devient. Vous saviez que vous êtes né la même année d'ailleurs.
49 ?
Ouais.
Ah ouais.
Bah oui, hein.
Ah bah oui.
Bah oui.
Si Wikipédia dit vrai.
Ah, très jeune. Oui.
De votre côté, Maxime Le Forestier, un papa britannique, dessinateur industriel, c'est ça
et... Non, il n'était pas britannique. Il avait les deux nationalités. Son père était français et sa mère aussi.
Oui.
Mais son père, mon grand-père, était professeur de français au lycée français de Londres, ou chez Berlitz, je sais pas, mais enfin, il enseignait le français aux Anglais. Et mon père est donc né à Londres, ce qui lui permettait de dire « je suis sujet britannique et citoyen français ».
Ah, pas mal, hein.
Ce qui m'a fait comprendre très jeune la différence.
Oui.
Ce qui fait qu'après, on parle mieux français que beaucoup de Français. Oui. Les grands étrangers parlent généralement magnifiquement le français, ceux qui parlent bien le français. Regardez Kundera sur Honte, c'est des mecs qui écrivent en français d'une façon absolument extraordinaire.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai, hein.
Ouais. Vos parents ont divorcé assez rapidement. Quelque part, vous avez grandi... dans un univers de femmes avec un sacré tempérament quand même, non ? Votre maman, vos deux sœurs, oui. ça vous marque un homme, ça, ou pas ?
Sûrement, oui.
Oui.
Sûrement, ça le rend féministe.
Ouais.
Non, c'est vrai, mais pas seulement. Ma grand-mère paternelle, qui s'appelait Jeanne, qui était modiste à Londres, donc... chaque fois qu'il y a une histoire de galanterie, je pense à elle. Il faut marcher côté rue quand on est avec une femme. Des tas de choses comme ça et que je fais, et sinon je sens qu'elle va se retourner dans sa tombe.
Mais vous le faites encore, hein. on ouvre la porte, on passe derrière.
Oui, je suis très pour ce genre de pratique. Je trouve que ça met de l'huile dans les relations humaines.
Je n'ai pas cette image-là comme ça. À l'inverse, Jacques Weber, vous avez plus grandi dans un milieu patriarcal, non ? Alors, bourgeois, vous l'avez raconté, c'était plus votre père qui...
Mon père était donc physicien, en spectrographie, c'est-à-dire il étudiait la décomposition de la lumière, ce qui est déjà intéressant sur le plan poétique. Et ma maman, c'était une maman géniale, c'est-à-dire c'est à la maman dans toute sa splendeur, c'est-à-dire c'est faire marcher une famille, ce qui est considérable, puisqu'on était quatre enfants, dont un mouton noir qui était moi, très mauvais élève, insupportable, déjà. Sale dégueulasse tout le temps, et un frère brillant, deux sœurs brillantes, enfin voilà. Mais c'était du boulot, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de sous qui rentraient à la maison, donc j'ai gardé une émotion, c'est autre chose, c'est privé, mais j'ai gardé une admiration énorme pour ma mère, vraiment.
Et comme quoi l'influence, la première femme de la vie.
C'est du grand boulot d'être maman. Chapeau.
Mais l'un comme l'autre, de toute façon, vous dites-vous, j'étais un cancre à l'école, vous avez été viré parce que je sais plus ce que vous avez fait. Vous aviez.
J'avais dit je vous salue Marie,
c'est ça
à haute voix avec mes chaussures orthopédiques sur la tête. Enfin, c'était des trucs un peu con, mais c'était une révolte. J'en avais marre, je supportais pas, puis surtout, nous avait mis. Le cours Florent, c'est là où ça a démarré au lycée Carnot. Au lycée Carnot, on m'avait mis dans des classes d'adaptation. C'est-à-dire, pour être très clair, on mettait les crétins ensemble. Et ça, c'est une chose qui m'est... Et encore maintenant, ça m'est resté dans la tête. C'est-à-dire, quand je vois qu'un gars a un baccalauréat ou une licence de lettres, je suis comme ça. Je fais, ah bon, bah bravo, formidable. Et ça marque beaucoup. Et j'en veux énormément à l'éducation nationale là-dessus. Et ouais. on est encore en train de faire ce genre de conneries. D'ailleurs, pas de la même façon, mais on décline ce genre de trucs et je trouve ça...
Et Maxime Le Forestier, vous avez été viré vous aussi pour indiscipline. Est-ce que c'est chacun lié à vos natures respectives ou c'était dans l'air du temps contestataire que de dire...
Vous vous souvenez d'une opération qui s'appelait Solancy ?
Oui.
Ah oui.
Pour les enfants malades du sida dans les années 90. Notre premier concert avait lieu à l'ancienne Olympia. L'ancienne Olympia, il y avait deux loges qui restaient opérationnelles avec de l'eau où on pouvait fermer la porte et tout. Donc on avait fait... Une loge fille pour Catherine Lara, Zazie et Morane, et une loge garçon où il y avait Jonas, Cabrel, Souchon et moi. Notre premier sujet de conversation, tous les quatre, quand on était dans la loge, ça a été comment persuader nos enfants de passer le bac, vu qu'aucun de nous quatre ne l'avait.
C'est pas faux.
Donc il devait y avoir à l'époque, à l'éducation nationale, des systèmes auxquels on n'était pas adapté.
Voilà.
Voilà, c'est Mais moi, je suis très heureux des professeurs que j'ai eus après, quoi. Des gens comme Brassens, comme Nuno Oliveira, comme Moustaki. C'est
vous en parlez
gens...
comme des profs, hein. C'est aussi d'autres types
c'est
de profs.
C'est des maîtres, plus que des profs, des maîtres. Hein. Alexis Grus, il dit qu'un professeur professe avec les mots et un maître montre avec le geste. C'est pour ça que c'est des maîtres de danse, de musique, de...
Ouais.
De et moi, c'est des gens qui m'ont vraiment montré avec... tiens, mais ces deux mots-là, comme ça, un jour Éléonore, au lieu d'Éléonore un jour, tu vas voir, ça sonne mieux.
Ouais.
Les maîtres sont toujours très concrets, alors même que les profs sont souvent théoriques.
C'est ça.
Un
c'est
maître,
ça.
C'est concret. Ouais. Ouais. Moi, quand j'ai essayé d'écrire tout seul, après on l'a écrit tous les deux, la chanson, et Maxime, mais j'avais, je dis pas pour lui faire du violon, mais c'est vrai que j'avais devant moi un maître de la chanson et de l'écriture de la chanson. C'est très enthousiasmant, et c'était très concret, il était là avec son crayon, et puis il est très dur, parce que j'ai osé lui envoyer...
Ah oui, ça m'étonne pas, c'est bizarre,
j'ai osé lui envoyer des textes que je t'en pense... Ça fait rap, point.
Ça fait rap.
Oui. C'est bam. Mais oui, mais je stagne, c'est pareil. Au théâtre, Planchon, c'est pareil. Françon, c'est pareil. Et moi, ça, le maître, ça se sent tout de suite dans le concret des choses.
En parlant de maître, tout à l'heure, vous me parliez de votre mentor Brassens, un autre ogre. Vous allez le reconnaître.
Nous avons de l'argent tous les deux. Toi, tu représentes le patronat, moi, le capitalisme. Nous votons à droite. Toi, c'est pour préserver la famille. Moi, c'est pour écraser l'ouvrier. 10 couples chez toi, c'est une réception. Chez moi, c'est une partouze. Et le lendemain, si nous avons des boutons, toi, c'est le homard, moi, c'est la vérole. Tiens, même la guerre, nous ne l'avons faite ni l'un ni l'autre. Eh bien, toi, tu représentes le héros de l'intérieur et moi, le planqué. Non. Avoue que tout ça est bourré d'injustice.
Mon cher Lucien, je suis ravi de t'avoir revu. Maintenant, si tu veux bien me laisser travailler.
Ah, travailler. Ah, j'attendais ça. Le maître mot, l'explication de tout. Voilà 40 ans que tu travailles et que je ne fais rien, que tu gagnes de l'argent et que j'en dépense, que tu collectionnes les présidences et moi les aventures. Vous me haïssez parce que je m'amuse. Vous me haïssez. Et moi, je vous emmerde.
Ouais, génial. Vous connaissez par cœur, hein, cette scène.
Les grandes familles. Gabin. Alors, il y a deux monstres, parce que Gabin, moi aussi, c'est mon grand-père de théâtre, mais je ne l'ai pas connu. Là, Brasseur, j'ai vécu pendant un an avec lui au théâtre. Mais ça me rappelle d'ailleurs des discussions qu'on avait avec Maxime sur ce qu'il appelait à propos de Vanessa Paradis. Je me souviens, tu m'avais parlé du phrasé. Le phrasé. Mm-hmm. Et ce qu'il y a toujours de reconnaissable immédiatement, moi je le fais mieux dans ma profession, puis Maxime le fait formidablement pour la chanson, je n'arrive pas à comprendre ce que c'est que le phrasé chez un chanteur, j'ai beaucoup de mal. Mais dans ma profession, je sais. Et vous avez entendu, il y a un phrasé, brasseur, intérieur, comme ça. Et puis, oh, dire. Et chez le phrasé de Gérard Philippe, tout ça, c'est le phrasé de Depardieu. C'est des phrasés qui n'ont rien à voir avec le naturel. Mmh. Et pourtant, c'est ceux qui sonnent le plus vrai. Ça, c'est la magie de ce boulot.
En parlant phrasé, j'ai lu quelque part que vous appliquez le théorème de Brassens, Maxime Le Forestier. C'est quoi le théorème de Brassens? C'est une formule mathématique.
C'est une période où je me posais des questions sur ma façon de m'accompagner. J'étais toujours avec deux guitares et une contrebasse, qui était la formule d'accompagnement de Brassens. Et vers le milieu des années 70, j'ai eu envie de me dégager de tout ça et de mettre des guitares électriques et des rythmiques et tout ça. Je m'en suis ouvert à Brassens. Et qu'est-ce que t'en penses? Il m'a dit, si tu veux le faire, fais-le maintenant.
Ouais.
Parce que moi, je rêve de le faire, mais le public ne comprendrait pas. Donc fais-le tant que tu peux encore. Et puis il a ajouté, de toute façon, une chanson, si t'es capable de te lever à la fin d'un repas et d'intéresser les gens en la chantant juste en tapant le rythme sur la table, après tu peux l'arranger comme tu veux.
Ouais, c'est super.
À chacun ses mentors et ses profs de vie, comme vous dites. Bah tiens, vous parliez de Vanessa Paradis avec un certain Maxime Le Forestier et sa chienne d'idées sur France Inter.
Quelle imagination, ça sort, la chose qui balance ses trésors. Pas de collier, pas de matricule, ça met le feu à ton vestibule. Prends sa lumière, choisis son heure, paye pas son écho au passeur. Elle quand même, ça vous épate, elle passe bien, même à quatre pattes. Voilà une chienne d'idées qu'on n'a plus pour longtemps, voilà une chienne d'idées, faut qu'on la pique avant. De quel bois ça peut bien se chauffer, la chose qui se fait jamais coffrer. La petite cousine à Houdini quitte la rivière du fond de son lit, dit, tu vas pas fermer maintenant en plein cocktail. Rien d'étonnant, ce qu'elle leur glisse entre les doigts, les hommes sans plus, les hommes de bois. Voilà une chienne d'idées qu'on n'a plus pour longtemps, voilà une chienne d'idées, faut qu'on la pique avant. Voilà une chienne d'idées, faut qu'on la pique avant. Voilà une chienne d'idées qu'on n'a plus pour longtemps. Voilà une chienne d'idées, faut qu'on la pique avant. Avant qu'elle s'efface sous leur gomme, qu'elle participe à un sitcom, qu'elle se mélange à leur crayon, qu'elle sache plus jamais écrire non. Je voudrais que tu l'invites à boire, Oscar. Ne me répète pas qu'il est trop tard. Voilà une chienne d'idées qu'on n'a plus pour longtemps. Voilà une chienne d'idées, faut qu'on la pique avant. Voilà une chienne d'idées qu'on n'a plus pour longtemps. Voilà une chienne d'idées, faut qu'on la pique avant.
Une chienne d'idées avec Maxime Le Forestier et Vanessa Paradis, et c'est ce qu'on disait avec Jacques Weber en off, là, vos deux voix se marient prodigieusement bien.
On a fait
bien.
Beaucoup de duos avec Vanessa, ouais. beaucoup, dont un qui est mon préféré, c'est Mistral Gagnant, qu'on avait fait pour les Restos du Cœur.
Oui.
Et à chaque fois que j'ai un duo à faire avec Vanessa, elle a la même exigence, il faut qu'on répète tous les deux, tout seul, dans une pièce fermée, sans témoin, et juste avec une guitare. Après, ce qui se passe, c'est pas important, oui. mais enfin, je veux dire, si on peut rajouter des trucs, mais la répétition primaire, elle est comme ça. Et j'adore.
Toucher l'imaginaire collectif, s'inscrire dans quelque part un universel, évidemment, il n'y a pas de miracle. Par exemple, enfin, je pense à être né quelque part qui résonne autrement aujourd'hui, quand on voit le drame des réfugiés, des gamins syriens. Qu'est-ce qui fait qu'une chanson est datée ou pas?
Ah. Mais une chanson peut être datée de plusieurs époques. Hein. Mmh. Regardez le temps des cerises. Au départ, c'était une jolie berceuse pour chanter aux enfants. Puis c'est devenu un hymne révolutionnaire avec la commune. Et puis, quand ma grand-mère me la chantait, c'était redevenu une berceuse. Je sais pas. C'est quand il y a quelque chose qui... Parce que l'imaginaire collectif, par définition, on sait pas où il est. Hein. Moi, quand je croise des gens dans la rue qui me font un petit signe, je ne sais pas ce qu'ils ont fait sur mes chansons. Ni ce qu'ils ont imaginé.
Ouais, c'est
quand même
histoire.
Une relation étrange, ouais, ça. Ouais. Donc ça reste un mystère pour moi, ce que fait résonner une chanson chez quelqu'un, je sais pas.
C'est Jacques Weber.
Lorsque l'on joue, enfin moi, c'était une phrase d'ailleurs qui m'avait frappé chez Rodagil, que j'adorais, et qui disait le grand problème, c'est, tu comprends, c'est toujours la grande différence qu'il y a entre ce qu'on donne et ce qui est reçu.
Ouais. Oui, c'est sûr.
Et ça, c'est notre problème. Ouais. Mais je pense que la réponse de cette espèce d'éternité d'une chanson, voire même parfois d'une interprétation d'un film ou d'un bouquin, c'est la grâce. Mais la grâce, c'est facile, c'est comme l'âme. C'est-à-dire qu'on met le mot là où on sait pas comment dire. On sait pas comment s'expliquer, alors on dit c'est la grâce. Et donc ça interpelle quelque chose qui est au-dessus de nos têtes. Alors c'est pas forcément un grand barbu, parce que ça fait plutôt chier, mais c'est une espèce de chose qui est là. une immanence qui nous dépasse complètement. Mmh. Il y a un accord tacite universel qui est là, au-dessus de quelque chose, d'une chanson. D'une... Et après, elle a son histoire. C'est très, très beau ce que dit cette espèce de déclinaison du temps des cerises. C'est magnifique.
Ouais.
Les enfants, la commune, la grand-mère, c'est formidable.
Oui, c'est...
Ça pourrait être une chanson, t'as l'histoire d'une chanson.
Tiens.
Tiens, tiens.
On lui en suggère, là. Hein.
Ça n'arrête pas.
Oui. Vivre en bourgeois et penser en demi-dur, on en parlait tout à l'heure, Jacques Weber, en début d'émission, au-delà de ce portrait incroyable de Flaubert, votre Gustave, ne pas s'embourgeoiser, rester un demi-dieu, non, en tout cas ne pas s'embourgeoiser dans la tête. C'est une question qui vous taraude, vous, au-delà de l'acteur, en tant que... voilà.
On est en grand danger. Il est évident que, d'abord, on a, pour des raisons très, très différentes les uns des autres, on est tous des revanchards de sociaux. Enfin,
des
moi,
quoi
bah, des revanchards de la classe sociale dans laquelle on était. En tout cas, pour ce qui est mon cas, on a envie de grandir bourgeoisement. Bah, bon, il faut le reconnaître. Moi, je suis devenu un privilégié dans mon boulot. Il n'y en a pas beaucoup. Je fais partie des rares privilégiés. Je suis authentiquement, intrinsèquement bourgeois. Je me prépare bourgeoisement à rentrer dans l'arène où peut-être je vais trouver quelque chose de l'ordre de la relation entre le terrien, un rôle, c'est très concret, et puis l'immanence, c'est-à-dire le dieu. Donc ça fait demi-dieu. Donc voilà, c'est comme ça que moi j'interprète ce titre, enfin je me l'accapare. C'est oui, je vis en bourgeois, j'en ai besoin pour exercer mon boulot, enfin j'en ai besoin maintenant, mais vivre en bourgeois, c'est ce que dit Flaubert sans arrêt, ne veut pas dire penser en bourgeois. Et ce qu'il attaque pendant toute son œuvre, c'est la sottise de l'esprit bourgeois, c'est tout à fait
penser
autre
bassement,
chose.
Penser bassement, penser
très bassement, petit. Voilà, oui, c'est ça. Et oui, ou la vulgarité, qui est l'absence de style absolu, enfin. Et moi, je ressens très bien ce mouvement-là. Mais parfois, il me questionne, mais c'est des questions qui n'ont aucune espèce de, sont parfaitement égocentriques et qui n'ont pas grand intérêt.
Je pense que ça intéresse. On est tous un peu concernés. On dit souvent idéaliste, utopiste à 20 ans et bourgeois, embourgeoisé à plus de 40.
Mais il faut faire gaffe à ça. Je crois que là, moi, je pense le contraire de ça parce que même si on prend du ventre ou qu'on prend un taxi à la place du métro, je trouve que moi, ma pensée est beaucoup plus acérée, précise et en révolte. Et on a envie, peut-être qu'on aurait envie d'un corps jeune, mais moi, la pensée que j'ai maintenant, je la préfère à celle que j'avais il y a 20 ans.
Forcément, ça vous cause, ça, Maxime Le Forestier. Vous parliez tout à l'heure des utopies qui parfois se rabotent avec le temps. En quoi vos utopies d'avant, fraternelles, pacifistes...
Raboter, ça veut dire affiner.
Et oui, c'est vrai. Donc elles se sont rabotées.
J'ai joué il n'y a pas longtemps à un monsieur qui est à luthier.
Oui,
et j'ai vu qu'il y avait des tout petits rabots qui affinaient le bois
la
du vieux
gouge. Le célèbre gouge.
L'embourgeoisement dans la tête, ça vous travaille, vous, ou pas?
Non, pas trop, non. Moi, vous savez, j'ai l'impression que mon métier, c'est de rêver. C'est Souchon qui avait dit un jour, les gens ont du mal à comprendre qu'on puisse rester 3 jours à regarder une porte.
C'est pas faux.
Et moi,
fermée
je suis,
ou ouverte
je, peu importe. mais c'est moi, c'est un peu ça, quoi. Je peux regarder le même arbre pendant des heures et ma tête va fonctionner. Et à un moment, je vais peut-être noter un demi-verre. Ça rend pas heureux le patron de ma maison de disques, hein, parce que les choses n'avancent pas vite. Mais je fonctionne bien comme ça.
Je regarde la porte. Il y a une chanson, La vieille dame, hein, la vieille dame que vous comparez à la France, la vieille dame ankylosée, qui aurait pu être la vieille dame embourgeoisée d'ailleurs. Qu'est-ce qui ankylose?
Elle est profondément bourgeoise.
C'est ça.
Oui.
Qu'est-ce qui ankylose? Qu'est-ce qui nous empêche de nous ankyloser ou qu'est-ce qui nous ankylose?
Ah ben les ankyloses de la France, on n'est pas en train de les vivre. Si, c'est une vieille dame, elle se comporte comme une vieille dame. Quand on la secoue, ça lui fait mal.
Elle a de l'arthrose aussi.
Elle a de l'arthrose, elle a du mal à marcher, elle a peur de tomber. Elle a peur de tout d'ailleurs.
Peur de l'étrange, de l'étranger.
J'aime bien cette chanson parce que c'est. Ouais. J'ai l'impression que c'est une chanson qui va continuer un peu. Je l'ai sortie un mois avant le second tour des présidentielles, en me disant, ben voilà, on va voir ce qui se passe.
C'est ça, et donc
je ne souhaite pas avoir raison. Hein.
Vous avez peur d'être ankylosé par certaines choses, ce qui vous ankylose, Jacques Weber?
Non, mais ce que je trouve extrêmement ambigu, c'est que certaines personnes qui sont au pouvoir pourraient très bien reprendre à leur compte ce qu'est en train de dire Maxime. Et ça m'énerve, parce qu'on est dans le contraire du mouvement. On est dans la persistance de l'ankylosage. C'est pas parce qu'on va à toute vitesse qu'on se précipite sur des petites lois qui font leur effet qu'on bouge. C'est tout le contraire. C'est de la bougeotte pour moi, mais c'est tout le contraire d'un mouvement profond. Et ça s'ankylose de plus en plus. Et ouais. D'ailleurs, ça se ressent dans beaucoup de mouvements qui commencent à... Moi, je viens de tourner... D'un seul coup, ça m'énerve. Je viens de tourner dans un hôpital.
Ouais.
Et j'ai pas arrêté de demander aux figurants qui étaient autour de moi, vous êtes une vraie ou une fausse infirmière? Alors, on me disait vrai, qui, d'un seul coup, qui se refaisait un peu de fric en faisant la figuration de l'infirmière. Et j'ai entendu parler pendant des heures de la condition de ces gens-là, par exemple. Mais on pourrait trouver la même chose lorsqu'on dit qu'ils ont des privilèges absolus par rapport au cadre de la SNCF, etc. C'est terrible, quoi. C'est terrible. On ne peut plus accepter cette espèce de disproportion qui est en train de s'agrandir de plus en plus. C'est insoutenable, c'est inaudible, c'est pas vrai. Donc non, ça ne bouge pas. Oui, ça s'ankylose de plus en plus. Non, je dis ça pour pas qu'on aille croire que... Enfin, peut-être que Maxime pense différemment que moi, je sais pas. Mais En Marche, mon cul, c'est du Marche de Michael Jackson, c'est le pas sur place, quoi, voilà.
Qui l'a piqué au Mime Marceau, d'ailleurs.
Qui l'a piqué au Mime Marceau, qui lui était un génie.
Voilà. J'adore. Tout est possible dans cette émission. Si vous aviez 20 ans aujourd'hui, l'un comme l'autre, Maxime Le Forestier et Jacques Weber, vous seriez quoi? Trader, webmaster, zadiste, chanteur, acteur?
Bah déjà, je ne serais pas parachutiste.
Bah ça.
Les gens de 20 ans ne savent pas la chance qu'ils ont de ne pas être obligés d'aller là où ils ne veulent pas. Quoi.
Comme elle le chantait, elle aussi.
Tu avais juste 18 ans quand on t'a mis une béret rouge, quand on t'a dit rentre dedans tout ce qui bouge. C'est pas exprès que t'étais fasciste, parachutiste.
John Baez, qui chantait parachutiste à la fête de Lima en 72-73, oui.
Non, avant.
Avant, ouais.
Ça doit être en 71.
Oui, époque San Francisco. Voilà, justement, on parlait de chansons qui résonnent toujours encore. Ça fait bizarre de l'entendre, là, par John Baez.
Ça me fait toujours plaisir. Ça me fait toujours plaisir d'entendre chanter June Baez. Ça me fait toujours encore plus plaisir de chanter avec elle. Ça m'est arrivé quelques fois, j'ai eu cette chance. C'est une femme... pour moi, c'est pas une légende. C'est une femme qui a, même comme sa mère, enfin, j'ai beaucoup d'affection pour elle. On se voit pas suffisamment, mais à chaque fois qu'on se voit, c'est un vrai plaisir.
20 ans, Jacques Weber, aujourd'hui, trader, zadiste, chanteur, acteur,
non,
en colère.
Non, j'aurais adoré, Maxime, ça va le faire hurler de rire, mais non, j'aurais voulu être chanteur d'opéra, moi.
Ah.
Mais ça, alors, c'est...
Mais c'est t'aurais pu.
Je pense que d'après ce qu'on me dit,
oui,
j'aurais pu, je peux plus, mais vraiment adoré ça. C'est la région lyrique que je préfère au monde.
Ouais. Voilà.
Et puis c'est pas la peine d'avoir le sens du rythme.
C'est vrai que le niveau du rythme, je suis pas très 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 bon.
Elle est notre dame de la chanson française.
Aucune histoire banale gravée dans ma mémoire. Aucun bateau pirate ne prendra le pouvoir. Aucune étoile filante me laissera dans le noir. Aucun trac, aucun. Et demain, tout ira bien. Tout sera loin. Là au final, quand je prendrai le large. Tout sera loin, donne-moi la main, là au final, quand je prendrai le large. Aucune larme, aucune ne viendra m'étrangler. Aucun nuage de brume dans mes yeux délavés. Aucun sable ni la dune n'arrête le sablier. Aucun quartier de lune, aucun et demain. Tout ira bien, tout sera loin. Là au final, quand je prendrai le large, tout sera.
C'est le large, Françoise Hardy sur France Inter.
Dans tes rêves.
Dites-moi ce que vous voulez. Vous voulez la lune, peut-être. Vous n'avez qu'à la demander, je l'attraperai au lasso et je vous la descendrai. C'est une magnifique idée. Je vais vous donner la lune, Madeleine.
Quand je l'aurai, qu'est-ce que j'en ferai ?
Laurence Garcia.
Et Jacques Weber et Maxime Le Forestier, ce soir, c'est l'heure de notre dernière séquence imaginaire. Il est bientôt minuit et comme à chaque fois, je demande à mes invités, on a un petit peu tamisé le studio, je vais vous demander pour de vrai de fermer vos yeux. Allez hop, vous allez tenter de me répondre les yeux fermés, le micro est devant vous. Les yeux fermés, Jacques Weber, si vous pouviez recroiser cet ancien vous, ce gamin, voilà, jeune chien fou d'aventure, de théâtre, avec du recul, qu'est-ce que vous lui dites à ce moment ?
Prends confiance. Prends confiance et ferme ta gueule.
Ah, c'est pas mal, ça va. Vous pouvez croiser les yeux fermés, Maxime Le Forestier, ce môme qui portait peut-être déjà la barbe, je n'en sais rien, viré du lycée pour indiscipline. Vous lui dites quoi ?
Pas grave.
Pas grave ?
C'est pas grave.
Vous lui dites pas passe ton bac d'abord ?
Non.
Non.
Non, non. C'est ce que j'ai dit à mon fils Arthur.
Ah bah oui.
Mais parce qu'il voulait faire un disque tout de suite, j'ai dit d'abord ton bac et 36 chansons. Mais bon, c'est pas pareil non plus le bac aujourd'hui et le bac il y a 50 ans.
Toujours les yeux fermés, Jacques Weber, si vous pouviez recroiser un célèbre défunt, un fantôme d'un autre temps pour un bon gueuleton imaginaire pour refaire le monde, ce serait qui ?
Oh, Shakespeare, sans hésiter.
Vous l'emmenez où ?
Je l'emmène pas en Bretagne parce que c'est trop, ça ressemble, c'est la petite Angleterre. Non, je l'emmène dans son contraire. Je l'emmène, moi, je l'emmène en plein Paris, place de la Concorde à 6h du soir. Hein.
Place de la Concorde.
Je sais pas pourquoi.
Oui, c'est bizarre. Maxime Le Forestier, vous réveillez qui ?
Des gens que j'ai connus. J'arrivais là bien Nuno Oliveira parce qu'il me manque vraiment. Je réveillerai bien Brassens parce que j'aimerais avoir des précisions sur les chansons posthumes. Il y a des rimes, il y a des choses. J'aimerais parler avec lui de ça.
Tout est possible. Allez savoir, en tout cas dans nos rêves peut-être. C'est bon, vous pouvez réouvrir les yeux que vous avez déjà réouverts. Ça va, bien rêvé ?
Oui, tout va bien.
Ouais, tout va bien.
C'est mon métier. Donc.
Oui, c'est ça. C'est mon métier, rêveur. Rêveur professionnel. Pour continuer de rêver avec vous deux, alors il y a Vivre en bourgeois, penser en demi-dieu chez Fayard. On en apprend autant sur vous que sur ce fameux Gustave, de personnage bien démesuré. Hein,
je sais pas.
Non, c'est une belle...
Ce qui est joli, c'est le... Voilà,
exactement,
c'est
les allers-retours.
Les allers-retours, oui.
Entre deux hommes.
Ben j'espère.
Flaubert, il est quand même...
Assez,
vous, à côté, vous êtes un enfant de cœur. Hein,
ah
quand
oui,
même,
tout
hein,
à fait.
Hein, tranquille. Hein. Et il y a Hugo Bistrot du 18 avril au 5 mai, ça c'était la scène Télém. Et le prochain album, bientôt, Maxime Le Forestier
rythme.
Ah bah oui, mais si vous regardez les portes pendant des plombes.
Oui, bon, non, j'en ai écrit la moitié, là, à peu près.
Ah bon, c'est bon, ça y est.
Ouais.
Ça veut dire qu'il existera.
C'est ça. Vous pouvez rassurer votre...
Tourner à la moitié, ça va.
En tout cas, merci beaucoup, messieurs,
pour cette
belle rencontre à travers l'autre. Dimanche prochain, nouvelle rêve partie avec les écrivains Jean-Louis Fournier et Grégoire Delacour. Et bien sûr, oser rêver, l'imaginaire est notre plus grande liberté. Et personne ne peut nous l'enlever.